Chapitre 5. Depuis, j'allais souvent à ces Parlopsées. Mes amis s'en étonnaient, car, disaient-ils, qu'est-ce qui peut bien t'y attirer? La campagne n'est pas belle, il n'y a point de chasse, et les dîners de la baronne ne sont rien moins que succulents. Mais c'était vrai, pourtant, je ne m'ennuyais jamais à la seigneurie. J'y avais découvert une collection d'originaux tels qu'ils n'en existent plus peut-être nulle part ailleurs qu'en Galicie. À elle seule, Varvara, il suffit sans doute à m'intéresser. Je pénétrais, pour ainsi dire, dans les coulisses de sa vie. Tandis que d'autres, ne la voyant qu'à l'église ou dans le monde, pouvaient se tromper sur son caractère, confondre le masque avec le visage, moi, je la surprenais à ces heures inévitables où les nerfs se détendent, où l'esprit d'intrigue se repose, où la comédienne oublie son rôle. Et ce déshabillé moral d'une femme prudente, astucieuse entre toutes, avait, je dois en convenir, le charme le plus piquant pour un observateur. Que de naïveté dans la proclamation incessante de son monstrueux égoïsme. Aussi avais-je renoncé à jamais la contredire. Les moissons seront-elles moins détruites si vous critiquez et condamnez la grêle? La foudre qui frappe un innocent sur le grand chemin l'épargnera-t-elle davantage parce que vous lui aurez reproché l'immoralité de son action? Non, vraiment, on ne peut que constater le phénomène et en prendre note. J'agissais ainsi avec la baronne. Il y avait en elle un mélange bizarre d'impressions apparemment contradictoire. L'avidité de l'ordre, la volupté de la possession, était comme paralysée par la crainte de jouir d'un trésor qu'elle idolâtrait sans oser y toucher. C'était une misérable vie, en somme, sans lumière, sans couleur, sans joie, et pourtant la pensée que cette vie dut finir la faisait tressaillir d'angoisse. La terreur de la mort finit par briser ce roc. Varvara devint dévote, une fausse dévote, s'entend. Elle priait, se confessait, brûlait des ornements d'église, mais sans cesser pour cela de faire de l'usure et des spéculations. Quand elle veillait à ce que ses gens observassent toutes les abstinences, tous les jeûnes prescrits, son avarice fraternisait évidemment avec sa dévotion. Elle ne dédaignait pas non plus la science, pourvu que celle-ci s'accordât avec ses principes d'économie. Aussi prit-elle parti tout à coup pour le système hygiénique qui prescrit l'usage exclusif des végétaux. Ah, il fallait entendre là-dessus son valet de chambre, Malchin, retroussant ses manches et se léchant les lèvres. « Elle nous donnait de l'herbe à manger, monsieur le bienfaiteur, rien que de l'herbe, comme aux bœufs. » Pour Malchin, tout légume, sauf la choucroute, était de l'herbe. Mais la révolution a éclaté à la fin. Oh, je crois que si elle ne nous avait pas donné notre viande, nous l'aurions mangée elle-même. J'arrivai un jour à Séparlovsé, avant le coucher du soleil, au moment où l'on trayait les vaches. De très loin, déjà, des chants harmonieux avaient frappé mon oreille, et lorsque j'entrai dans la cour, je m'arrêtai pour mieux entendre s'élever en chœur une douzaine de voix justes et fraîches. Des rossignols, n'est-ce pas, que nos jeunes filles? Dit Malchin en retroussant de rechef ses manches de chemise. Madame a su qu'elle buvait quelquefois du lait tout en trayant les vaches, de sorte que les pauvrettes ont reçu l'ordre de chanter sans interruption tant que la besogne dure. Celle qui s'arrête est punie. Madame aime tant la musique que c'est pour elle le meilleur remède quand elle se sent nerveuse. « Vous êtes peut-être nerveux aussi, » ajouta Malchin, en me jetant un regard si méfiant que je ne pus m'empêcher de rire. « Eh bien, ici, nous sommes tous nerveux, » acheva-t-il, avec un gros soupir. Varvara, comme tous les gens soupçonneux et âpres, était souvent volée. On se faisait une fête de déjouer quelque peu sa surveillance. Quand elle s'en apercevait, c'était un nouvel aiguillon pour sa misanthropie. Je me rappelle qu'elle reçut une fois devant moi un de ses fermiers, petit homme maigre et noir dont les yeux de chat disparaissaient sous d'épais sourcils. Il toussa, fit un salut, joignit les mains, salua de nouveau et finit par soupirer bruyamment comme une locomotive qui laisse échapper la vapeur. « Qu'est-il arrivé ?» dit la baronne inquiète. « Je t'ai prié déjà de ne pas souffler ainsi. Viens-tu m'annoncer quelque malheur ?»« Eh, mon Dieu !» s'écria le fermier d'un ton lamentable. « Quel temps que les nôtres ! En fut-il si jamais de plus dur ?»« Ah, tu veux t'excuser de ne pas payer ton fermage. Tu cherches des prétextes. »« Oh, des prétextes, j'en ai pas besoin. J'ai d'assez bonnes raisons. » Il m'était impossible de me procurer de l'argent, du moins tout l'argent que je vous dois.
Comment tu oses ?
Oui, j'ose n'avoir pas le sou, répondit-il en s'enhardissant. Il m'a fallu me saigner aux quatre membres pour vous apporter le peu que voici. Et il jeta une liasse de billets de banque sur la table. Maintenant, retournez mes poches, fouillez-moi comme un sac. Vous me trouverez vide, absolument vide. » Barbara compta les billets, et peu à peu un sourire se dessina sur ses lèvres. Elle finit par repousser vers le bonhomme une partie de l'argent. « Il y en a deux fois plus que tu ne me dois. » Un instant, le fermier le regarda stupéfait, puis sa bouche s'ouvrit lentement, ses yeux suivirent le mouvement de la bouche, tous ses traits exprimèrent une rage comique. S'approchant d'elle avec emportement, « Oh, faites-moi la grâce, madame, de me donner un soufflet. »« Mais pourquoi ? Oh, ne me le demandez pas, je veux un soufflet de votre main. Ou bien peut-être ce jeune seigneur aurait-il pitié de moi et m'en donnera-t-il un ? Qu'est-ce que cela signifie ? « Ben cela signifie, oh Jésus-Marie-Joseph, que j'ai fouillé dans la mauvaise poche. Oh, bœuf que tu es !»« Mais qui appelles-tu bœuf ?»« Moi, parbleu. Et je voudrais voir qu'on me soutient le contraire. Faire de pareilles bévues, oh, triple sauva !»« Voilà vos bons paysans, me dit Barbara. Il a les poches bourrées d'argent, il prétend que les temps sont durs. » Faut-il ménager le Paris fripon ? Bon, elle n'avait pas besoin d'excuses pour ne point les ménager. Un autre des fermiers avait eu le tort de lui porter sur les nerfs par son seul nom. Il est vrai que le pauvre homme se nommait Pelchenichinchescosco. Le nom était difficile à prononcer. Se le rappeler seulement était une grosse affaire. Aussi prétendait-elle qu'il s'en servait comme d'une sorte de cachette pour esquiver réclamations et poursuites. Si je veux lui renvoyer Marchine ou l'huissier, je ne retrouve plus ce diable de nom et je suis obligé de recourir à la description. Tu sais bien ce grand paysan en sierrac brun avec un bonnet en toison d'agneau noir. Bon, finalement, il y a aux environs 500 paysans de grande taille en sirac brun et 250 au moins en bonnet de peau d'agneau noir. La baronne finit cependant par saisir le pauvre Fetchenichinchinskovo et par lui tirer lentement les plumes comme fait le vautour du moineau qu'il tient dans ses serres. Peu à peu, il lui prit ses bœufs, ses chevaux, ses vaches, ses prés, ses champs, et jusqu'à sa chaumière, sans se hâter, avec délice, comme si se fût agi de détacher l'une après l'autre les syllabes de ce nom interminable qu'elle n'a jamais su se résoudre à prononcer, jusqu'à ce qu'il ne resta plus qu'un misérable monosyllabe, un rien tout sec, vêtu de guenilles, nu-pieds, et cherchant sa consolation dans l'eau de vie. Un soir, en descendant le perron pour aller faire une promenade, nous nous trouvâmes face à face avec ce pauvre R. La baronne, craignant peut-être quelque violence, fit mine de rentrer, mais il avait déjà saisi sa manche de sa casabaïka et y appliquait ses lèvres, qui laissèrent une large tache sur le velours rouge. « Ne te sauve pas, ma colombe, s'écria-t-il. Réjouis-moi par ta vue, par tes discours qui coulent comme le Nil. » Oh, je crois que cet homme est ivre, s'écria Barbara. Pas du tout, répondit-il. Et en effet, le malheureux était à jeun. Il ne trébuchait ni ne bégayait. Ses yeux n'avaient pas cette faible lueur propre aux yeux d'ivrogne. Seul son ébrier rouge fonçait comme une lampe qui s'éteint. Ben, il faut que je te remercie, ma bienfaitrice, s'écriait Belchenichitschelsko avec un mélange d'enthousiasme et d'ironie. Je te dois la liberté, le plus grand des biens. Oui, tu m'as délivré. Qu'est-ce que l'argent en est fait? Rien. Rien qu'un souci, un fardeau. Mais tu m'en as débarrassé avant le grand voyage qui nous force tous tôt ou tard à y renoncer. Oh, tu m'as donné la liberté, il faut que je t'embrasse. Ah, si tu approches, je te fais chasser à coups de pied, entends-tu? Cria la baronne. Pourquoi? Parce que je me serais montré reconnaissant? Parce que je t'aurais embrassé? Machine, appela Madame Bromeska de toutes ses forces. Même Machine fut jetée au loin comme une plume par le grand paysan, qui étreignit la baronne, quoiqu'elle se défendît, et l'embrassa d'abord sur la joue droite, puis sur la joue gauche. Après quoi, il s'essuya la bouche avec sa manche et s'en alla en chantonnant. La fille a des yeux noirs, une fossette au menton. Des scènes du genre de celle-ci se renouvelaient presque chaque jour, et j'en faisais mon profit. J'observais aussi les allures étranges d'Hermine. La baronne, qui passait désormais tout l'hiver dans ses terres, n'avait d'autre distraction que de jouer au piquet, enveloppée de manteaux et de châles comme pour une course en traîneau, dans sa chambre à peine chauffée. Toutes les autres pièces de la maison étaient fermées à clé par économie. J'ai dit qu'elle jouait au piquet, mais seulement quand la douce Nouchka était de bonne humeur, et cela n'arrivait qu'à de rares intervalles. Comme sa maîtresse, la jolie petite bohémienne, était devenue, en prenant des années, une affreuse caricature de ce qu'elle avait pu être jadis. Toute la vie de son visage tanné s'était réfugiée au fond de ses yeux d'oiseau de proie, qui brillaient sombres et féroces dans la caverne de leurs orbites. Elle raillait la baronne sans miséricorde, la dupait, la volait, allait même jusqu'à la maltraiter. Barbara s'était donné un tyran implacable, et plus le monde l'abandonnait, moins elle pouvait se passer de ce tyran, contre lequel, de temps à autre, elle essayait de se révolter, mais pour céder toujours à la fin. « Ne me faites pas cette méchante mine, disait Hermine. Souriez, entendez-vous, soyez gaie, ou je pars demain. Vous me connaissez. » Et Barbara souriait à travers ses larmes de rage. Si la famille d'Hermine venait à la seigneurie, force était bien que la baronne se dessaisît des clés du garde-manger et de la cave. Ce n'était pas sans combat. Tu me réduis à la mendicité, tu me mènes au tombeau, disait-elle en sanglotant. Puis elle se rendait comme une ville qui capitule. Oh, la diablesse, me dit-elle un jour tout bas, comme si elle m'eût confié un dangereux secret. Oh, la misérable, mais que ne puis-je vivre sans elle? Mais non, il faut tout endurer. Oh, si je n'avais pas mes nerfs seulement, elle serait châtiée comme elle mérite de l'être. Pour guérir mes nerfs, je sacrifierais la moitié de ma fortune, oui, la moitié. Les serviteurs se vengeaient sur les nerfs de leur maîtresse, de tous les maux qu'elle leur faisait supporter. Malchine, surtout, s'entendait à les torturer. Longtemps, il s'était demandé en quoi pouvaient bien consister les souffrances nerveuses dont on parlait sans cesse dans la maison. et il avait fini par se persuader qu'il devait être nerveux lui-même. Voici en quelles circonstances. C'était peu de temps après son entrée à la seigneurie. Le jour de la fête de Varvara était proche et Marcin fut appelé dans l'appartement de sa maîtresse pour y apprendre par cœur, avec l'aide de cette dernière, le compliment qu'il devait réciter au nom de tous les autres domestiques. L'aide que lui prêtait la baronne consistait en grands coups de chasse-mouche distribués sur la joue, l'oreille ou les jambes, chaque fois que la mémoire se montrait récalcitrante. Et Marcin s'arrêtait plusieurs fois à chaque verre. Le premier surtout paraissait lui offrir des obstacles insurmontables. Il commençait ainsi « Sois salué, toi, soleil de nos jours !» Même après qu'il eut réussi à retenir tout le reste des compliments, Marcin continua d'hésiter à la première ligne. Il fallait que sa maîtresse la lui dit, et alors tout le reste suivait comme par enchantement. De même jaillit la mélodie d'une pendule à musique aussitôt qu'on a poussé le bouton. La veille de la fête, la baronne lui fit passer un dernier examen. Il s'arrêta comme de coutume. « Donne-moi ta main !» s'écria-t-elle impatientée en levant le chasse-mouche. Marcin tendit la main, mais il la retira si vite que le coup ne toucha que le plancher. « Mais ta main, entends-tu ? Je ne peux pas, madame. »« Comment ? Ben non, voyez-vous, elle se retire d'elle-même. »« Oh, es-tu donc si lâche ? Obéis. »« Mais ce n'est pas que je craigne, mais je ne peux pas. Ça doit être nerveux. Oh, je suis sûrement nerveux. » La baronne éclata de rire. Le lendemain, elle attendit, assise sur son fauteuil comme sur un trône, en robe de soie rouge, le compliment des gens de sa maison. Ils entrèrent en bon ordre, formèrent un demi-cercle, et Marcin, muni d'un énorme bouquet, s'avança, puis, se prosternant, lui baisa la main, fit un pas en arrière, salua de nouveau, baisa pour la seconde fois la main de la baronne, et finit par pousser en la regardant un profond soupir, toujours sans parler. Pendant quelques minutes, un silence inquiétant régna dans la chambre. Enfin, Varvara montra des yeux au pauvre Marcin le rayon de soleil qui entrait par la fenêtre. Comme il ne comprenait pas, elle lui souffla les premiers mots. Mais Marcin, les yeux fixes, n'entendait rien que le bruit d'une grosse mer agitée, comme il le dit plus tard. « Sois salué, toi, soleil de nos jours !» murmura de nouveau la baronne. Il regarda le plafond, puis ses bottes, puis Varsara, elle-même, entr'ouvrit les lèvres et continua de se taire. Exaspérée, la baronne se leva d'un saut. Il répliqua le plus vigoureux des soufflets en criant à tue-tête « Sois salué, toi, soleil de nos jours !» Aussitôt, Marcin continua rapidement avec la précision d'une machine. « Noble dame qui embellit notre existence !» Et il arriva heureusement au bout. Mais son visage, pâle comme la mort sur une joue et violemment coloré sur l'autre, produisait un singulier effet. Ce jour-là, par extraordinaire, il eut festin à Séparovsé. Marcin, ayant avalé une assiette de soupe, un plat de choux, une onde de boudin, la moitié d'un gros rôti de porc et une vingtaine de piergures, tout en desserrant à plusieurs reprises la boucle de sa ceinture, se mit à gémir. « Dieu m'a abandonné, n'en puis plus. « Non, je ne saurais manger davantage. Je suis décidément nerveux. »
Depuis lors, il comprit les mots de sa maîtresse. Tout le monde pour lui était nerveux, jusqu'au couvreur qui se tua en se laissant choir du haut du toit de l'église. « Les nerfs !» murmurait-il, « les nerfs !» Nerveux comme il prétendait l'être, ce singulier garçon avait pour principal talent d'agacer les nerfs des autres. Malchine avait été longtemps soldat et se vantait d'avoir vu de loin la bataille de Solferino comme sur une image. Du service militaire, il lui restait le goût de la propreté d'abord, l'habitude de l'obéissance ensuite. Le premier dimanche qui suivit son installation chez la baronne, celle-ci lui ayant demandé « Ne fais-tu pas un tour après dîner ?» Il répondit debout, en position et la tête à droite « Madame commande que je me promène ?» Quelque temps après, comme il psalmodiait assis sur les marches du perron une sorte de chant funèbre, « Est-ce que tu as du chagrin ?» demanda la baronne, ouvrant la fenêtre. « Comment serais-je heureux, madame ?» répliqua Marchine. « N'ai ni père, ni mère, ni frère, ni sœur, pas même une bonne amie. Je suis en effet très malheureux, madame. Madame ne me commande pas d'être point malheureux, j'espère. » Il était taquin ou stupide. La baronne ne souffrait pas que le mot de mort fût prononcé devant elle, pas plus que les mots d'agonie, de tombeau, etc. Si quelque voisin tombait malade, Hermine avait coutume de dire « Il fait un petit voyage de plaisir. » S'il mourait, « Il est parti pour l'Italie. » La petite chienne ayant refusé sa pâtée, Marchine ne manqua pas de déclarer que Mika pensait faire un voyage de plaisir. Mais l'autre part, sous prétexte de propreté, il imagina un jour de tapisser les murs salpêtres d'un pavillon où la baronne allait volontiers l'été faire la sieste, de tous les billets mortuaires bordés de noir qui s'étaient accumulés dans la seigneurie depuis des années. La baronne faillit s'évanouir à ce spectacle. Elle ne craignait pas seulement la mort, elle craignait la vue de la misère. Et cependant, tous les vendredis, une troupe de mendiants se présentait à ses palancés. C'était un usage immémorial, et Varvara, qui tenait à passer pour dévote, n'eut pas osé l'abolir. Charger ses gens de distribuer les aumônes répugnait trop à sa méfiance. Elle imagina donc de faire déposer dans le vestibule un habillement complet qui avait appartenu à feu son mari et une de ses propres toilettes usées, chiffonnées, on peut le croire. Chaque mendiant, l'un après l'autre, endossait ses oripeaux sous la surveillance de Marchine, de sorte qu'au lieu d'une vingtaine de misérables en haillons, elle recevait chaque vendredi 8 messieurs en pantalon de nankin, frac bleu et souliers de bal et 12 dames en robe à queue. Dans chacune des mains salement gantées qui se tendaient vers elle, la baronne déposait 2 kreutzers. Il arriva que certains vendredis, l'un des messieurs en frac bleu manquait à l'appel. « Oh, quel est venu ce vagabond ?» demanda la baronne. « Oh, il pourra venir, » répondit Marchine. « Il est parti. »« Parti ?»« Oui, pour l'Italie. J'espère que madame ne le trouve pas mauvais. » « Imbécile, que veux-tu me faire à croire là ?»« Bien, non, il est parti pour un autre pays, mais ce qui est sûr, c'est que je l'ai vu partir, de mes propres yeux vu. »« Mais si tu dis vrai, c'est un ingrat de ne pas être venu prendre congé de sa bienfaitrice. »« Ben, il est assez difficile de se montrer reconnaissant et poli, » dit Marchine, éclatant tout à coup, « quand on est mort. »«
Quoi ?» Il est mort ?
Oui, mort, madame Siopostel.
Brut, me dire cela à moi, s'écria la baronne. Va, retire-toi de ma présence.
Et elle eut encore une attaque de nerfs. Un matin, Marchine apporta une lettre à sa maîtresse, tandis qu'on la coiffait. Hermine, qui justement était de mauvaise humeur, lui tirait les cheveux de toutes ses forces. Marchin, ayant remis la lettre, resta debout, les yeux attachés sur la baronne. « Mais pourquoi ne t'en vas-tu pas ?» dit enfin celle-ci. « Pourquoi me regarder de cet air ahuri ?»«
Parce que j'ai grand pitié de madame, » répondit gravement Marchin. « J'espère que madame ne me défend pas d'avoir pitié d'elle. »
« Si fait, je te le défends !» s'écria Varvara, rouge de colère. « Tu es ici pour me servir, non pas pour avoir pitié de moi. »«
Mais je ne peux pas faire autrement !» répliqua Marchin avec une émotion profonde. « J'ai un si bon cœur, je suis si nerveux. Comment n'aurais-je pas pitié de madame ?»
Et il se mit à sangloter. L'exemple de Marchin fut contagieux. Piotr, le cocher, s'avisa lui aussi d'avoir des nerfs. Seulement, il ne les sentait qu'à la pleine lune. Une fois, il attela les chevaux au carrosse d'apparat, comme minuit sonnait, et serait allé, Dieu sait où, si Marchi ne l'eût réveillé à temps. Une autre fois, on le vit, blanc comme un sylphe, dont il n'avait pas la taille du reste, assis à la lucarne du grenier, les pieds pendants, une ligne à la main. Il pêchait dans la cour. La petite chienne blanche, Mika, était encore le plus nerveux de tous les autres de ses Parovsé. La moindre chose excitait sa méchanceté, mais il suffisait, pour que cette méchanceté devint de la rage, que Marchin glissa sur le parquet ciré une brosse à chaque pied. Alors les mollets de la prudence couraient un danger réel. La collection d'originaux que renfermait la seigneurie reçut un précieux renfort en la personne d'un parent éloigné de Varvara, nommé Zenobius Monastirski. Ce jeune homme, élevé dans l'abondance, avait gaspillé follement son patrimoine. Devenu pauvre, il ne regrettait rien, ayant, pour un temps au moins, vécu à sa guise. Qu'il eût faim, qu'il eût froid, qu'il dormît à la belle étoile, sa gaieté ne l'abandonnait pas. Par une matinée de décembre, il apparut à Séparovsé en habit d'été, sans gants, sans bottes et sans bas, les pieds enveloppés de lambeaux de toile, un claque sous le bras, et naturellement, sa belle tante le traita de prodigue incorrigible, de membre inutile du genre humain, etc. « Je vous demande pardon, » interrompit Zenobius avec un fugitif sourire. J'ai été l'an dernier aider des paysans à rentrer le blé. Maintenant, je travaille dans l'étude du notaire Balchok à Coloméa. Eh bien, que venez-vous demander ici? Je ne peux rien pour vous. Oh, pardon encore, chère tante, je ne vous demande pas d'argent, ni je vais penser. Mais je voudrais obtenir que vous vous fissiez assurer. De quelle assurance parlez-vous, drôle? D'une assurance sur la vie. Cela ne vous fera aucun mal. Laissez seulement un médecin vous examiner. Il verra si vous avez une maladie chronique ou... Mais quelle horreur! C'est au milieu de vos princesses de la rampe, de vos coureurs de tripots, dans la belle société où vous avez perdu jusqu'à vos dernières bottes, que vous prenez ces idées-là? Mais, ma tante, il ne vous en coûtera rien. Je prétends payer le médecin et vous ne vivrez ni plus ni moins. Seulement, lorsqu'il plaira au ciel de vous reprendre, j'aurai une rente assurée. Ah, c'est cela. Vous comptez sur ma mort. Allez, sortez que je ne vous revois jamais.
J'obéis, répondit Zenobius avec déférence en marchant à reculons vers la porte. Mais vous ne pouvez m'empêcher de prendre mes précautions. Voyons. « Combien d'années vous reste-t-il encore à vivre ? Avec votre constitution ?»«
Arrête, bourreau !» interrompit Varvara en se bouchant les oreilles et tressaillant de tout son corps. « Arrête ! Ne prononce pas ce chiffre horrible. Je sais trop que je mourrai un jour. Mais si tu prends une assurance sur ma vie, je ne verrai pas la fin de l'année, j'en suis certaine. » J'aime encore bien te donner asile, mais au nom de Dieu, ne parle plus de ma mort ni de ma constitution.
Zenobius s'empressa de lui baiser la main. Son bagage fut vite transporté à la seigneurie. Il tenait tout entier dans un vieux mouchoir. En 5 minutes, il eut pris possession du réduit qui lui était assigné au rez-de-chaussée, suspendit un petit crucifix et le portrait de sa mère au-dessus de son lit, glissa un exemplaire usé de Faust sous son oreiller, puis, assis sur un escabeau, les deux mains appuyées sur ses genoux, il sourit et respira profondément. La misère était conjurée. Au premier dîner, il se brûla bien un peu les lèvres, tant il avait hâte d'apaiser les déchirements de son estomac vide. Mais cette faim féroce, une fois satisfaite, Zenobius reprit les manières polies dont il avait eu l'habitude. On eût dit que chez lui, le gentilhomme se réveillait d'un profond sommeil. En même temps, il se rendait utile de tout son pouvoir, et naturellement la baronne abusait de cette bonne volonté toujours alerte, toujours souriante. Si, vaincue par une superstitieuse terreur, elle lui avait donné asile, ce n'était pas pour le laisser ensuite manger son pain dans l'oisiveté. Elle l'envoyait donc au champ, au marché, vendre le blé, surveiller les coupes de bois, vaquer aux soins de la basse-cour et du jardin. Zenobius recollait les meubles cassés, mettait les pantoufles à sa tante, jouait au piquet toute la journée, sans autre enjeu que des fèves. De temps à autre, il se dédommageait de cette suggestion par quelque espièglerie. Oh, je me rappelle avoir assisté à l'une des meilleures. J'avais été invité à dîner chez la baronne avec un prêtre grec du voisinage et la famille de ce dernier. Au milieu de la table se trouvait une grande tarte magnifiquement garnie qui datait, je crois, des noces de Barbara et qui toujours était reportée intacte au garde-manger. Quelle fut l'émotion de notre hôtesse en voyant Zenobius offrir galamment de la tarte à Cléophare, la fille aînée du prêtre. Saisissant d'un grand couteau, il porta au précieux objet de parade un coup si vigoureux que l'un des morceaux alla frapper au front comme une pierre le digne prêtre effrayé. Plus tard, celui-ci en rit avec nous, car il était impossible d'être d'humeur plus débonnaire qu'Athanatas Kvietrovitch. Le neveu de la baronne s'était attaché à lui d'une affection sincère, peut-être parce qu'il était le père de la belle Cléopha. Chaque fois que j'avais rendu visite à la seigneurie, Zenobius me prenait par le bras pour m'entraîner au presbytère. C'était une humble demeure. Nos paroissiens de la petite Russie ne sont pas riches. On eût dit un nid d'hirondelle collé à la vieille église, et comme dans un nid d'hirondelle, en effet, jeunes et vieux étroitement serrés les uns contre les autres, gazouillaient gaiement du matin au soir. Le prêtre disait sa messe, préparait son sermon du dimanche, faisait tout tranquillement ses baptêmes, ses mariages, enterrait ses morts, et pour le reste, abandonner le monde au sage gouvernement de la Providence, sans se soucier de la politique ni d'aucune des questions brûlantes qui troublent la digestion des gens moins bien avisés. Athanas Kvietrovitch n'était qu'un paysan, mais un paysan lettré, qui, en revenant des champs, copiait d'une belle écriture des livres qu'il était trop pauvre pour acheter, et se tenait ainsi au courant de toutes les découvertes de la science, de tous les progrès de la philosophie. Très simple, indifférent aux grandeurs, aux richesses, il ne vénérait après Dieu que deux choses, la science et sa femme. Madame Sofronia Kirillovitch était adorée, choyée sans cesse, comme l'est seule une femme de prêtre grec. Celui-ci, en effet, ne peut se marier qu'avant d'être définitivement consacré au Seigneur, et s'il devient veuf, les ordres qu'il a reçus lui défendent de convoler en seconde noce. Aussi, quelle terreur a-t-il de perdre la mère de ses enfants? Il suffisait que Madame Sofronia dit « Oh, si tu me contraries, je vais maigrir » pour qu'il exécutât toutes ses volontés. Pourtant, Madame Sophronia aurait pu perdre sans inconvénient une partie de son embonpoint vraiment turc. Compatriote de cette autre fille de curé petit russien, Anastasie Listovski de Rohati, en Galicie, laquelle sous le nom de Roxelane gouverna tout l'Empire ottoman, elle avait ce même petit nez retroussé qui fit de Soliman le Grand l'esclave de son esclave, ce petit nez mutin qui trahit tant de caprices, de force et de passion réunies. Cette femme de 40 ans, magnifiquement épanouie, et les 4 enfants qui l'entouraient, ne faisait pas mentir le proverbe qui veut que la beauté soit l'apanage de toutes les familles de prêtres grecs en Galicie. Je m'aperçus bientôt que l'une des jeunes filles, Cléopha, une grande blonde au teint blanc et lisse comme l'hermine et aux yeux couleur de violette, dont le regard vous ouvrait tout un monde naïf et poétique comme celui de nos contes populaires, était l'objet des attentions respectueuses mais incessantes du brave Zénobius. C'était pour la voir qu'il m'entraînait au presbytère, n'osant plus y retourner tout seul, dans la crainte que la sollicitude maternelle de Madame Sophronia ne s'alarmât. Deux billets élégants d'une grande écriture nette, presque virile, nous avaient invité M. Kmitovitch et moi à nous rendre chez la baronne le même jour et à la même heure. J'allais donc chercher le prêtre, et nous entrâmes ensemble dans la cour de la seigneurie pour y être témoins d'une scène vraiment bizarre. Varvara, assise à une fenêtre ouverte du rez-de-chaussée, un grand livre d'heures à la main, récitait tout haut les litanies de la Sainte Vierge, en s'interrompant de temps à autre pour gourmander ses gens occupés dehors à divers services. Hé, Marchine, les oies sont au verger! Trop de la sagesse, priez pour nous. Mon Dieu, Herbine, qu'as-tu donc cassé? Secours des pécheurs, priez pour nous. Bon, voilà que la sauce brûle, j'incendie ici. Et elle appelait la cuisinière. Maudite coquine, la sauce est brûlée. Reine des anges, priez pour nous. Et ainsi de suite. Enfin, elle nous aperçut. Mika poussa un aboiement frénétique et saisit entre ses dents aiguës le manteau du prêtre, sans se laisser désarmer par les flatteries de ce dernier. « Mika !» cria la baronne. « Mika, méchante bête !» Elle nous fit entrer et, sans perdre un instant, nous conduisit dans une pièce écartée où jamais elle ne recevait de visite. Arrivée là, elle ferma soigneusement la porte à clé, après s'être bien assuré que personne ne pouvait entendre. « Je vous remercie, nous dit-elle, d'avoir eu pitié d'une pauvre femme abandonnée. Il s'agit d'un secret, d'un grand secret, et je veux me hâter de vous le confier. Autrement, on nous dérangerait. Vous savez, Hermine, oh, je suis bien malheureuse. Cette Hermine n'a pas de conscience. » Elle me tourmente dans l'espérance d'hériter. C'est une bête féroce, vous dis-je. Mais ses manèges seront trompés. J'ai fait mon testament. Alors je l'ai fait en double. Si je le cachais dans un meuble, elle le découvrirait. Elle forcerait le tiroir et ma vie, messieurs, ne serait plus en sûreté. Cette ingrate créature m'assassinerait, de même si je le donnais à un notaire. Alors, à cause de cela, je vous supplie de veiller à l'exécution de mes dernières volontés. Tenez, prenez. » Elle tendit à chacun de nous une enveloppe cachetée. « Et s'il plaît à Dieu de m'enlever de ce monde ?» Elle se mit à pleurer. « Ayez la bonté de remettre ce pli. » Elle ne pouvait plus parler tant était profonde chez elle la pitié de soi-même. « Voyons, il n'y a pas lieu de craindre ni de s'affliger encore, » dit doucement le prêtre. « Non, n'est-ce pas ?» répliqua la baronne, essuyant ses larmes du revers de la main. « J'ai souvent entendu dire que les malades qui reçoivent les sacrements ou qui font leur testament vivent encore longtemps après. Le croyez-vous
Oh, c'est que vraiment, je ne veux pas encore mourir. Feu mon grand-père avait atteint sa 82e année et il est resté robuste jusqu'à la fin. En ce moment, on frappa violemment à la porte.
Qui est là?
Demanda la baronne toute tremblante.
Ouvrez,
répondit la voix brève d'Hermine.
Vous voyez,
dit bien bas Madame Brominska. Elle ouvrit, craintive, et Hermine entra aussitôt avec fracas.
De secret, en vérité? Que se trame-t-il ici? Qu'avez-vous contre moi?
Quelles idées vas-tu te forger, chère Nouchka? Répondit la baronne de sa voix la plus caressante. Et elle embrassa familièrement celle que tout à l'heure elle appelait sa mortelle ennemie. Il semblait que Varvara eût été avertie par quelque pressentiment de sa fin prochaine, car vers la fin de cet automne-là, elle tomba sérieusement malade pour la première fois. Les soins du médecin de sa maison et des deux docteurs appelés en toute hâte de Coloméa ne lui parurent pas suffisants. Elle fit venir Zénobius près de son lit et lui dit tout bas
« Ces sots m'assassineront. Prends les chevaux et va-t'en vite à Lemberg. Je n'ai confiance qu'en toi. Ramène le meilleur médecin. Je paierai, oui, je paierai tout, mais ne perds pas une seconde et surtout, garde-toi de rien dire. »
Elle désigna Hermine d'un mouvement des paupières. Zénobius partit aussitôt pour Lemberg, mais le soir même, l'état de la malade s'aggrava sensiblement. Vers minuit, Hermine, étant seule avec sa maîtresse assoupie, la secoua de façon à l'éveiller et lui cria dans l'oreille «
Avez-vous fait un testament ?»
La baronne ne parut pas comprendre.
« Avez-vous fait votre testament ?»
répéta impérieusement Hermine.
« Mon testament ?»
murmura la baronne d'une voix éteinte.
« À quoi bon? Oh, je ne mourrai pas de sitôt. Mais il faut vous en fassiez un, et tout de suite, entendez-vous ?» reprit Hermine, la forçant à s'asseoir sur son lit. « Non !» dit Varvara avec une dernière énergie, « et je te défends de me parler de la mort. « Ne vous aurais-je donc sacrifié inutilement toute ma jeunesse ?» s'écria la bohémienne. « Mais cela ne se peut pas. Allez, prenez cette plume, prenez. Mais veux-tu m'assassiner ? Non, non, c'est pas la peine, vous mourrez sans cela. Ô misérable ingrate, monstre que tu es !»
Les mains de la baronne se crispèrent autour du cou d'Hermine, qui crut un instant qu'elle allait l'étrangler. Mais à force de coups, la Camérisse se délivra de cette étreinte furieuse.
« Oui, vous mourrez, » dit-elle aussitôt qu'elle eut réussi à reprendre sa respiration. « Vous mourrez, malgré tout, et à la dernière heure, il n'y aura pas à votre chevet un seul être qui vous aime, car moi aussi je vous abhorre. »
Hermine, après cette déclaration, n'avait plus de ménagements à garder. Elle prit les clés que la baronne cachait sous son oreiller et chercha le testament dans les coins les plus secrets. Varvara s'efforçait en vain de se lever, elle se débattait, elle appelait et personne ne répondait à ses cris. Au matin, Hermine n'avait pas encore trouvé le testament, mais elle s'était emparée de tout ce qui dans la seigneurie pouvait avoir quelque valeur, bijoux, papiers précieux, objets de garde-robe. Après avoir mille fois maudit la voleuse, Varvara s'était tournée du côté du mur et fermait les yeux. Lorsque son médecin va lui faire sa visite ordinaire, elle le supplia d'avoir pitié d'elle, de traîner Hermine en justice. Le médecin, croyant aux divagations de la fièvre, promit tout ce qu'elle voulut, quitte à ne rien faire. Vivante ou morte, cette malheureuse femme était abandonnée aux mains de sa servante, qui restait la véritable maîtresse de Sepalovsé. Deux jours se passèrent ainsi, jours d'angoisse pour elle. Spectatrice du pillage qu'elle ne pouvait empêcher, Varvara ne sentait pas auprès d'elle
comme l'avait prédit Hermine, une seule personne qui lui fut dévouée. Sous prétexte de la veillée, Piotr et Marcin jouaient aux cartes au milieu de la chambre, en buvant le meilleur vin de la cave et en fumant leur pipe. « Pourquoi nous en priver ?» disait Marcin, « puisqu'elle doit mourir. » La dernière protestation s'était éteinte sur les lèvres refroidies de Varvara. Tout à coup, elle appela faiblement Mika. La petite chienne s'approcha du lit, flaira le drap et se retira vite. En vain, sa maîtresse lui donna-t-elle les noms les plus tendres, elle ne reparut plus. Alors, ce cœur de pierre se brisa, Varvara sanglota tout haut. Ainsi se passèrent les derniers jours qu'elle eut encore à vivre, si l'on peut appeler vivre cette lutte effroyable entre l'âme prête à partir et le corps qui se révolte encore. Enfin l'heure sonna, qui efface toutes les douleurs, qui apporte la délivrance aux plus méchants comme aux meilleurs. Mika se mit à pousser sous le lit des hurlements lamentables. « Qu'as-tu, ma pauvre bête ?» murmura sa maîtresse. « Faim, peut-être ?» Mais Hermine éclatant d'un rire impitoyable. « Oh, les chiens hurlent, dit-elle, quand il y a des bourrins dans la maison. » « Je ne meurs pas, gémit la baronne. Non, je ne meurs pas, je ne veux pas mourir. Qu'on aille chercher le prêtre, ajouta-t-elle quelques instants après. Quand la cuisinière de Sebalovze entra au presbytère, j'y étais justement en visite. Nous nous hâtâmes de répondre à l'appel de la mourante. Mais il était trop tard. L'agonie avait commencé. Marcin lui ayant dit « On est allé chercher sa révérence, monsieur Knitrovitch. » Varvara répliqua d'une voix que personne ne reconnut. « Qui est celui-là ?» comme si elle eût entendu son nom pour la première fois. Hermine s'approcha du lit. « Elle meurt, dit-elle tout bas, c'est fini. » Et avec une férocité inouïe. « Et me direz-vous enfin, reprit-elle, où est le testament ?» Sur ce visage de morte passa un sourire malicieux, effrayant. « Le testament est, oh, il est en bonne main, » répondit-elle avec fermeté. « Tu n'auras rien, non rien, même pas une vieille pantoufle. » Puis tâtant la couverture des deux mains. « Où est mon argent ? » soupira-t-elle. « On m'a pris mon argent. » Lorsque j'entrai avec le prêtre, elle venait de mourir. La seigneurie semblait avoir été mise au pillage et tout le désordre qui suit une orgie régnait dans la chambre mortuaire. Varvara n'avait pas cette beauté paisible et solennelle que j'ai vue à la plupart des morts. Ses traits étaient absolument défigurés. Personne n'avait songé à lui fermer les yeux. Le prêtre se mit en prière. Les serviteurs s'agenouillèrent à son exemple. Au dernier amen, Zenobius parut sur le seuil avec le grand médecin de Lemberg. Tandis que celui-ci s'approchait du lit, puis haussait les épaules, le jeune parent pauvre de la baronne prononça un fervent paternoster, il se pencha vers sa tante et lui ferma pieusement les yeux. Le soleil couchant projetait un dernier rayon d'or sur la main ouverte de la morte. Les ducats dont elle avait été si avare n'eussent pas brillé davantage. Je reconduisis M. Knitovitch au presbytère. Nous marchions côte à côte en silence quand un cortège funèbre nous rejoignit. Nous nous rangeâmes pour le laisser passer. « Qui donc enterre-t-on » demandai-je. « Un paysan de Sepalovze, » me répondit M. Knetovitch. « Dans la contrée, il était connu pour le pire des ivrognes. Écoutez comme sa veuve le pleure. » En tête du cortège marchait un homme portant la croix, puis les chantres suivaient avec le diacre. Six garçons robustes portaient le cercueil couvert de grosses toiles blanches, et derrière le cercueil venait la veuve, les cheveux épars, les vêtements déchirés. Le long cortège d'amis et de voisins, armés de fusils et de pistolets pour la plupart, faisait penser à des cosaques prêts au combat plutôt qu'à des paysans en deuil. Les bruyantes lamentations des pleureuses se mêlaient au murmure des prières et au son déchirant du trembir. Un corps des Carpates. Quand tout eut fait silence, la veuve recommença ses sanglots et ses gémissements. En même temps, elle se tordait les mains, s'arrachait les cheveux.
« Ah, mon cher Zéphirin, disait-elle, pourquoi m'abandonner? Comment vivrai-je sans toi, pauvre femme que je suis? Qui donc me battra maintenant, mon Zéphirin? Qui donc m'accablera d'injures, puisque tu n'es plus mon trésor? Dis, qui donc boira toute l'eau de vie du cabaret? Qui donc s'endettera auprès des Juifs, comme tu savais si bien le faire ?»
Rien de plus étrange que cette lamentation ironique de la veuve, qui, délivrée de son tyran, devait néanmoins se soumettre à l'usage. Tout l'humour populaire de la petite Russie éclatait dans cette improvisation.
« C'est le jugement du défunt qui commence, » fit observer Knetovitch.
« Comment, pensais-je, jugera-t-on Varvara ?» Mais non, Varvara n'a rien à craindre. Elle a veillé toute sa vie à ce que personne ne puisse se trouver là pour gémir derrière son cercueil. Je me trompais. Les splendides obsèques de la baronne furent conduites par Zénobius, qui pleurait comme un enfant. Aussitôt après les funérailles, survint le notaire Batschkok pour l'ouverture du testament. Monsieur Knitovitch et moi, nous présentâmes chacun le pli qui nous avait été confié. C'était le même testament écrit en double. À peine Balstock en eut-il pris connaissance, qu'il poussa une longue exclamation.
Mais c'est fou, absolument fou. Jamais créature raisonnable n'a choisi un tel héritier. Il y a de quoi rire.
Cet héritier invraisemblable n'était autre que Mika. Toute la fortune des Wormianski était léguée à la petite chienne hargneuse, mais l'administration des biens restait confiée à Zénobius. Il toucherait les revenus tant que vivrait l'intéressant quadrupède, à la condition de le soigner fidèlement. Mika, morte à son tour, tout devait retourner au carmélite de Lemberg, qui était chargé de prier pour l'âme de la défunte baronne. Zénobius, en apprenant les bizarres dispositions testamentaires qui le concernaient, demeura d'abord atterré. Il n'avait pas compté sur une obole. « Laissez-moi m'asseoir, dit-il, je n'ai plus de jambes. » Mais l'instant d'après, le jeune fou, bondissant jusqu'au plafond, saisissait Mika par les pattes et se mettait à danser avec elle. Les domestiques vinrent saluer leur nouveau maître, et aussitôt, comme il arrive pour tous les changements de gouvernement, les délateurs et les courtisans surgirent. Marchin lui chuchota un mot dans l'oreille droite, Piotr un autre mot dans l'oreille gauche, et Zénobius donna tout au lord de l'ouvrir devant lui les malles d'Hermine. Sans se laisser intimider par les menaces ni toucher par les pleurs de cette mégère, il reprit d'une main ferme tout l'argent, tous les objets précieux qu'elle s'était appropriée, saisit de l'autre main une cravache et la chassa ainsi de la seigneurie. L'argent est pour les hommes une pierre de touche. Zénobius, riche, ne ressemble à guère à Zénobius pauvre. Il perdit sa gaieté, ses joyeux enfantillages, son insouciance du lendemain. Bref, il ne resta rien de lui que l'amour voué une fois pour toutes à la blonde Cléopha. Contre cet amour, l'argent lui-même ne fut rien. Au fait, comment Zénobius ne serait-il pas devenu triste et chagrin? Son opulence, son bonheur même, puisque la misère lui eût ôté le courage d'aspirer à la main de celle qu'il adorait, tout enfin dépendait de la vie d'un méchant roquet, vieux, obèse et maladif. Non, dit-il dans son honnêteté scrupuleuse, « Oh non, je ne ferai pas de Cléopha aujourd'hui une dame et demain une mendiante. » Il résolut d'amasser à force d'économies un petit capital qui lui permit de prendre charge de famille. Mais pour cela, il fallait prolonger de 3 années au moins la vie de Mika. Cela semblait impossible vu les fréquentes indispositions de cette créature gâtée. Et Zénobius entreprit d'arriver à ses fins en se privant de tout. Plusieurs domestiques furent congédiés. Il fit des réformes de toutes sortes et la seigneurie prit une mine plus désolée encore que du temps de la baronne. L'esprit de cette dernière semblait toujours flotter dans les murs qui avaient abrité son avarice. Toutes les recherches du bien-être et du luxe étaient réservées pour la seule Mika, toujours couchée sur ses coussins comme une petite maîtresse et plus grondeuse, plus irascible que jamais. Les soins assidus de Zénobius étaient reçus par elle sans l'ombre de reconnaissance. En vain se levait-il dès l'aube pour la brosser lui-même, en vain la baignait-il chaque semaine avec des précautions infinies, la séchant ensuite dans du lin chauffé, l'emmaillotant comme un poupon de sa pelisse de zibeline pour la porter dans le lit d'édredon où elle consentait à dormir. À table, Mika recevait du bout des dents les meilleurs morceaux. Si elle les refusait, Zénobius suppliait, cherchait à l'amuser, appelait une foule de chiens imaginaires, Diane, Azor, Jupin, jusqu'à ce que Mika, poussé par la jolie, eût surmonté sa répugnance et mangé son potage. Il lui tenait compagnie dans la carrosse où elle trônait, tout comme une noble dame, disait Piotr. Mais rarement elle se décidait à sortir, et il fallut que son gardien, puisqu'il ne pouvait se résoudre à l'abandonner aux soins douteux des domestiques, prit des habitudes sédentaires. Plus de visites au presbytère. À peine lui permettait-elle de lire ou de fumer à sa guise. Combien de fois le pauvre Zénobius fut-il réveillé en sursaut la nuit par le cauchemar qui lui montrait Mika courant quelques dangers. Il n'avait plus de repos avant de s'être assuré que la bête endormie respirait bien. Le médecin de la maison ne faisait pas cette princesse. On consultait pour elle à Coloméa, même à Lemberg. Mais rien ne pouvait vaincre un embonpoint alarmant qui la rendait de jour en jour plus lourde et plus haletante. « Plaignez-moi, » me disait Nobius un jour que j'étais allé le voir. « Plaignez-moi !» Je me sacrifie à ce maudit animal, et il ne me donne en échange que du souci. Tant de soucis que je voudrais le battre jusqu'à l'assommer, mais que deviendraient mes revenus si je suivais mon envie. J'entrai avec lui dans le salon où Mika reposait, accablée sur ses fourrures. Elle ne se leva pas pour courir à la rencontre de Zénobius. Elle ne poussa pas un aboiement joyeux. Elle ne revint même pas la queue, comme lui fait tout autre chien à la vue de son maître. L'homme était ici l'esclave de la bête, et on eût dit que la bête s'en rendait compte, car elle appela Zénobius d'un grognement sourd, et Zénobius obéit à ce chien qu'il détestait, parce que le chien était riche. « Vous voyez, me dit-il avec amertume, je reçois des ordres. » Mika parut comprendre qu'il se plaignait, car, se levant avec une fureur soudaine, elle se mit à japper en montrant ses dents aiguës qui mordirent Zénobius de la belle façon lorsqu'il essaya de l'apaiser. Enfin, le pauvre diable tomba dans une mélancolie profonde. Il évitait ses amis, maigrissait à vue d'œil. « Comment, disait M. Kmitovitch, un homme peut-il être poussé par la cupidité jusqu'à devenir le valet d'une bête ? » Il y avait 3 mois que la baronne était morte. Un soir, je faisais au presbytère une partie d'échecs avec la belle Cléopha, lorsque Zénobius, tout de noir vêtu, traversa les champs à grands pas, semblable à un corbeau sur la neige, et se précipita dans la chambre où nous étions réunis, la famille du prêtre et moi. Il avait l'air désespéré. Ses cheveux tombaient par mèches éparses sur son pâle visage. Il tenait un pistolet.
Sans prononcer un mot, il embrassa les genoux de Cléophas. « Mais est-ce que Mica est morte ?» demandai-je. Ce fut, je vous l'avoue, ma première pensée. « Oh, que m'importe qu'elle meure !» s'écria-t-il avec emportement. « J'en ai assez de cet ignoble esclavage !»« Oh, Dieu soit loué !» interrompit le prêtre. « Dites que vous aurez pitié de moi, Cléophas. Promettez de devenir ma femme et je renonce à toutes mes richesses. Je casse la tête de Mica. » Et il brandit son pistolet. « Cléophas, le veux-tu ? J'aime mieux pour ma part m'atteler moi-même à la charrue que de renoncer plus longtemps à ma dignité d'homme. » La belle fille ne répondit pas tout d'abord. Ses yeux étaient baissés sur l'échiquier. Tout à coup, sa main un peu grande, mais bien faite et blanche comme l'ivoire, sortit de la fourrure dont était bordée sa casabaïka, et poussant un pion avec tranquillité, « Échequé mat !» prononça-t-elle. Notre partie était terminée. Alors elle se tourna vers Zénobius, toujours à ses pieds. « Je serai votre femme, lui dit-elle, mais ne tuez pas le chien, car il serait aussi absurde de repousser l'argent que de s'en faire l'esclave. » Ainsi Mica trouva grâce devant la blonde Cléophas, qui un mois plus tard entrait en maîtresse à la seigneurie, le petit chien du presbytère sur ses talons. Ce chien vif, espiègle, toujours frétillant, bondissant, avait vraiment le diable au corps. Je n'en vis jamais de plus drôle ni de plus aimable. Il fit ce que toute l'énergie et toute la sagesse de Cléophas n'auraient pas su accomplir, peut-être. Il relégua les médecins dans l'ombre. Il sauva la vie de Mica. Celle-ci accueillit d'abord ses avances d'un air boudeur, mais à la fin de la première journée, les deux chiens s'ébattaient comme du vieux camarade à travers les jardins. L'exercice rendit à Mica l'appétit que doit avoir un chien bien portant et même la taille svelte qui ne semblait pas qu'elle ne pût jamais recouvrer. Elle devint mère de famille et acquit tout naturellement les qualités que ce titre comporte. Je suppose qu'elle vit encore.